Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, l'Église nous invite aujourd'hui tout particulièrement à chanter les louanges, les gloires de Notre-Dame. Si on regarde les textes liturgiques de cette messe et puis d'une manière générale de toute la fête de l'Assomption, nous voyons que c'est là vraiment l'intention profonde de l'Église aujourd'hui. Et dès l'introïte, nous entendons ces paroles. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Oui, nous devons nous réjouir de la joie de notre Mère du Ciel. Aujourd'hui, elle revoit, elle est réunie à son divin Fils. Aujourd'hui, elle est couronnée, reine des anges, reine de tous les hommes. Elle rentre dans le bonheur même de Dieu, et cela pour l'éternité, une éternité bienheureuse. Et l'Épître chante la victoire de Notre-Dame sur le démon. L'Évangile, lui, nous rapporte son beau Magnificat, l'âme de Notre-Dame qui magnifie le Seigneur pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits qu'il lui accorde, et qui prophétise que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Oui, vraiment, nous devons nous réjouir de ces gloires de Marie. Saint Alphonse de Ligorie a écrit un livre entier sur les gloires de Marie, un très beau livre que je vous conseille. On ne peut pas tout dire, tant sont grandes les richesses de notre Mère du Ciel. Prenons simplement quelques instants pour admirer et pour louer Notre-Dame dans ses trois plus grandes vertus, les trois vertus les plus importantes de la vie chrétienne, sa foi, son espérance et sa charité. Ces trois vertus se trouvent en Notre-Dame à un degré tout à fait suréminent. Dès l'instant de sa conception, Notre-Dame a reçu une telle plénitude de grâce qu'au dire du pape Pie IX, Dieu, dans sa proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, Dieu seul peut sonder toute la profondeur des grâces reçues par Notre-Dame. Même les anges ne peuvent pas comprendre combien pleine de grâce est notre Mère du Ciel. Et c'est pourquoi ces trois vertus théologales se sont trouvées en Notre-Dame à un degré tout à fait merveilleux. Et d'abord, sa foi. Sainte Élisabeth proclame dans l'Évangile d'aujourd'hui « Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse vous qui avez cru ». Et pourtant, lors de sa visitation, lors du mystère de la visitation, Notre-Dame n'avait que les prémices de ce bonheur, que les prémices, que les débuts de cette joie. Aujourd'hui, dans le mystère de l'Assomption, cette joie de Notre-Dame atteint toute sa plénitude. C'est non plus la joie, le bonheur de la foi en Dieu, de la foi sur des choses que l'on ne voit pas, mais c'est le bonheur éternel de la vision qui commence pour elle. Vous savez que la foi, on n'a pas la foi au ciel. Les bienheureux n'ont pas la foi au ciel puisqu'ils voient Dieu face à face. Alors, ils ne peuvent pas croire puisqu'ils voient. Et justement, Notre-Dame est pour cette raison le modèle le plus grand de la foi, puisque notre Seigneur, ici-bas, même ici-bas, ne pouvait pas avoir la foi, puisque notre Seigneur, dès l'instant de l'incarnation, dès qu'il est venu dans le sein de Notre-Dame, avait la vision béatifique. Il voyait bien sûr Dieu, son Père, face à face, il était Dieu. Alors notre Seigneur ne pouvait pas avoir la foi ici-bas, c'était impossible. Alors c'est Notre-Dame qui est le modèle le plus accompli de la foi pour nous. Et nous le voyons dans tout l'Évangile. Les quelques allusions que l'Évangile fait à la vie de Notre-Dame nous présentent toujours la grande foi de la Vierge Marie. D'abord, dans l'Annonciation, elle croit les paroles de l'archange Gabriel. Et puis, on la voit à deux reprises, repassant les mystères auxquels elle assistait, la naissance de son fils, le recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Elle repassait ces grands mystères, les méditant dans son cœur. Et véritablement, toute la vie de Notre-Dame a été comme imprégnée par cette atmosphère surnaturelle, cette atmosphère qui lui venait de la méditation continuelle des mystères de notre foi. Vous savez que pour nous, malheureusement, notre foi ne rayonne pas tant que ça. sur notre vie. Bien sûr, nous croyons en Dieu, bien sûr, nous croyons les mystères de notre religion, mais souvent, cette foi est un petit peu lointaine, peut-on dire. Elle n'imprègne pas tous les instants de notre vie. Souvent, nous nous dirigeons d'une manière un peu toute naturelle, d'une certaine manière. On ne vit pas dans le péché, bien sûr, on évite le péché, mais enfin, on a tendance à trop rechercher les biens de cette terre, à trop rechercher une bonne réputation et à trop rechercher toutes les choses qui passent. Nous ne vivons pas suffisamment de notre foi et quand une épreuve arrive, nous avons du mal à y voir un don de Dieu. On a tendance à voir que l'aspect pénible et ne pas assez contempler bien cette croix comme nous unissant à notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, on a du mal à accepter toutes ces épreuves, surtout quand les épreuves sont un peu grosses. On réagit pas toujours avec une foi très forte. Mais pour Notre-Dame, il n'en était pas de même. Dans toutes ces épreuves, même au pied de la croix, elle savait que notre Seigneur était Dieu. Elle le croyait de tout son cœur et elle acceptait ses propres souffrances. Elle acceptait la mort de son propre Fils avec une foi profonde, très forte. Et cette foi imprégnait vraiment toute notre vie. Bien, demandons à Notre-Dame, justement, qu'elle nous communique aussi à chacun d'entre nous sa foi, qu'elle communique ne serait-ce qu'une étincelle de sa foi à ce pauvre monde, et le monde serait renouvelé, les malheurs se changeraient en joie. Pourquoi est-ce que les hommes sont aujourd'hui si malheureux? Pourquoi est-ce qu'ils se dirigent même vers leur malheur éternel? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Aussi, ils ne savent pas quel est le vrai chemin qui mène au véritable bonheur. Et les hommes vont à leur malheur. Et nous aussi, nous croyons si peu, si nous croyons vraiment, ne serait-ce par exemple qu'en la bonté infinie de Dieu, qu'on y pense un peu, qu'on dit que Dieu est infiniment bon, cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il ne s'agit pas simplement de dire que Dieu est bon, que Dieu est très bon. Non, il est infiniment bon. Il n'y a rien qui peut nous décrire cette profondeur de la bonté de Dieu. Si nous y croyons vraiment, alors nous serions tout ardents, tout joyeux à nous donner entièrement à Dieu. Si vraiment les hommes, si vraiment les chrétiens croyaient en Dieu, comme, un peu comme Notre-Dame croyait en elle, alors la vie chrétienne serait bien plus fervente. Les saints jailliraient de toutes parts, les cloîtres seraient remplis, et puis ce serait une pluie de bénédictions qui se répandrait pour le salut des hommes. En demandant un peu à Notre-Dame, d'abord, bien de participer un peu à sa foi, qui nous partage un peu de ses grandes vertus de foi. Et puis ensuite, admirons son espérance dans cette belle prière du Magnificat. « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humble condition de sa servante. Il a comblé de bien les affamés et les riches. Il les a renvoyés les mains vides. » Et Notre-Dame a mis toute sa confiance, tout son espoir en Dieu, et elle n'a pas été déçue. Aujourd'hui, dans ce mystère de l'Assomption, son espérance se développe et devient possession. Ce qu'elle a espéré, voir Dieu face à face, ce qu'elle a espéré, le salut éternel, maintenant, elle le reçoit en rentrant dans le ciel. Et ici encore, Notre-Dame est par excellence le modèle de l'espérance, puisque notre Seigneur ne pouvait pas espérer, puisqu'il avait la vision béatifique, encore une fois, dès son incarnation, dès le premier moment de sa venue sur terre, dès qu'il a pris l'humanité, alors il ne pouvait pas espérer. On ne peut pas espérer recevoir ce qu'on possède déjà. Ce serait absurde. Or, notre Seigneur n'avait pas à proprement parler l'espérance. Donc, Notre-Dame est le modèle par excellence de cette grande vertu de l'espérance. Et on le voit également dans toutes les étapes de la vie de Notre-Dame, ne serait-ce par exemple qu'à l'Annonciation, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera mère de Dieu. On peut penser que Notre-Dame aurait pu, humainement, être troublée par une mission si glorieuse, bien sûr, mais en même temps si grande. Comment est-ce qu'une simple créature peut être à la hauteur de cette maternité divine? C'est impossible. Mais pourtant, Notre-Dame ne se trouble pas un instant. Aussitôt, elle répond, voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait en moi selon sa parole. Notre-Dame ne doute pas, n'est pas troublée. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout son espoir, toute son espérance en Dieu. Elle sait qu'avec cette mission si grande, elle recevra surabondamment la grâce nécessaire pour être la digne mère de Dieu, même si c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Bien, parce qu'elle a mis tout son espoir en Dieu, elle répond, elle accepte cette mission d'emblée et sans une hésitation. En célébrant donc son espérance, nous-mêmes aussi, demandons qu'elle nous donne un petit peu de son espoir qu'elle avait en Dieu. Notamment, c'est si nécessaire en nos jours qui sont bien troublés. Il faut espérer contre toute espérance, puisque le mal s'est répandu partout. Bien, regardons Notre-Dame aujourd'hui, dans le mystère de l'Assomption, son espérance n'a pas été déçue. Elle a reçu toute cette grâce extraordinaire de Dieu et maintenant elle est dans le bonheur éternel. Que nous-mêmes, nous soyons pleins d'espérance dans la crise, dans l'Église. Certainement, si nous prions vraiment, un jour, Dieu aura pitié de son Église. Et pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle individuelle, malgré toutes nos chutes, nous pouvons toujours nous appuyer sur Dieu, revenir à Dieu avec beaucoup de confiance, car il a toujours pitié de nous. Et enfin, c'est cette charité ardente, surtout, que nous pouvons célébrer aujourd'hui en Notre-Dame. Maintenant, celui que Notre-Dame a tant aimé, elle le possède, elle le voit face à face, elle l'aime de tout son cœur dans le ciel. Son amour si ardent, si tendre pour son Dieu et pour tous les hommes est couronné. Saint François de Sales dit que Notre-Dame est morte d'amour parce que son âme tendait avec tant de force, tant d'ardeur vers Dieu que lorsque le temps est venu, lorsque elle a atteint cette plénitude de grâce qui était fixée par Dieu de toute éternité, quand elle est parvenue à la fin de sa course terrestre, son âme tout doucement s'est détachée de son corps pour rejoindre Dieu qu'elle aimait tant. Et cette mort très douce, qu'on appelle dormition, a été suivie, peu de temps après, par la résurrection. Dieu l'a ressuscitée, son Fils l'a ressuscitée, afin qu'elle rentre glorieuse en corps et en âme dans les joies éternelles du paradis. Ces charités, encore, on le voit dans le Magnificat, elles renvoient toute gloire à Dieu. On a magnifié le Seigneur. Tout ce qu'elle a, elle ne se regarde pas du tout elle-même, elle n'apporte pas son regard sur elle-même. Elle renvoie toute gloire à Dieu, spontanément. Cette charité de Notre-Dame, on la voit aussi dans l'acceptation de toutes les souffrances. Dans l'épître d'aujourd'hui, il dit « Pour les hommes, vous n'avez pas épargné votre vie ». Mais voyant les angoisses et la détresse de votre peuple, vous avez conjuré sa ruine en présence de notre Dieu. Notre-Dame a accepté des souffrances si grandes qu'elle est appelée la reine des martyrs. Notre-Dame, bien sûr, n'est pas morte, martyr, mais elle a tant souffert au pied de la croix, notamment, qu'elle aurait pu mourir en soi de douleur. Elle était soutenue par la grâce de Dieu, mais sa souffrance fut immense. Et aussi, elle est appelée reine des martyrs. Et si elle a accepté toutes ces souffrances, ces croix si grandes, c'est par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour son Fils, par amour pour chacun d'entre nous, pour notre salut. Et cette souffrance, elle la connaissait dès l'Annonciation, quand elle lui a annoncé qu'elle sera mère de Dieu. Notre-Dame connaît les prophéties, notamment les prophéties sur le Messie souffrant qu'il y a dans l'Ancien Testament, hein, plusieurs reprises dans les psaumes, dans le prophète Isaïe. Et elle sait très bien qu'elle-même va participer à ces souffrances du Messie. Et pourtant, elle accepte cette incarnation. Elle renouvelle cette acceptation encore à de nombreuses reprises lorsque le vieillard Siméon lui dit qu'un glaive de douleur transpercera son cœur. Elle accepte tout simplement cette volonté de Dieu sur elle. Et au pied de la croix également, Notre-Dame accepte tout simplement. Elle se tient debout avec force parce qu'elle accepte cette mort de son divin Fils. Mais comme le dit saint Paul, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Parce que Notre-Dame a tant souffert, elle est aujourd'hui, dans l'Assomption, glorifiée au-dessus de tous les autres hommes. Elle a mérité d'être co-rédemptrice, c'est-à-dire que tout ce que notre Seigneur a mérité en stricte justice, parce qu'il est à la fois homme et Dieu, vrai Dieu et vrai homme, donc sur la croix, notre Seigneur mérite en stricte justice la réparation du péché, qui est d'une gravité infinie. Bien, tout cela, Notre-Dame l'a également mérité, non pas en stricte justice, si impossible, puisqu'une simple créature, fût-elle Notre-Dame, ne peut pas mériter une chose qui est infinie, la réparation du péché infini, mais l'a mérité, comme on dit, en raison de son union avec Dieu, de son amitié avec Dieu, de son union avec notre Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que véritablement, on peut dire que toutes les grâces que nous recevons nous ont été méritées par Notre-Dame, nous ont été méritées d'une manière subordonnée au mérite de son divin Fils, mais d'une manière bien réelle tout de même. Et ensuite, elle est glorifiée en étant médiatrice de toute grâce. Médiatrice parce qu'elle fait descendre toutes les grâces que nous recevons, elle fait descendre sur nous, et aussi parce qu'elle fait monter vers Dieu toutes nos prières, toutes nos bonnes œuvres, elle est présente à Dieu. C'est ce qu'on appelle la double médiation de Notre-Dame, médiation descendante, parce qu'elle fait descendre sur nous toutes les grâces, médiation ascendante, parce qu'elle présente à son divin Fils tous nos mérites, toutes nos bonnes actions. Et c'est pourquoi la dévotion à Notre-Dame est nécessaire au salut, parce que les autres saints, nous savons, nous pouvons les honorer, mais il y en a tant, il y a des centaines et même des milliers de saints, il est bien sûr impossible d'honorer et d'avoir une dévotion particulière pour chacun d'entre nous. C'est impossible et ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les saints intercèdent pour nous et nous obtiennent certaines grâces, quelques grâces, mais non pas toutes les grâces. Donc ils ont un rôle particulier, comme on dit. Alors que Notre-Dame, elle est médiatrice universelle. Toutes les grâces méritées par son Fils passent par ses mains. Et donc, elle est médiatrice de toutes les grâces. Et par conséquent, pour recevoir les grâces qui nous sont absolument nécessaires, il faut avoir cette dévotion envers Notre-Dame. C'est une nécessité. Aussi se réalise cette prophétie de Notre-Dame, Ecce enim beata medicant omnes generationes. Voici que toutes les générations me proclameront bienheureuse. Il suffit de voir toutes les chapelles, toutes les églises, toutes les cathédrales sur la terre qui sont dédiées, consacrées à Notre-Dame. Oui, véritablement, nous pouvons chanter aujourd'hui cette gloire tout à fait suréminente de notre Mère du Ciel. Et en nous réjouissant avec elle, chers fidèles, demandons-lui d'imprimer en nos âmes toutes ses vertus, quelque chose, quelque participation à ses vertus, de nous enflammer du désir de la suivre, de l'imiter, afin que nous la rejoignions au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.